应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor pour ce 60e numéro. Alors 60e numéro un petit peu particulier et pas forcément en bien puisque nous étions censés vous parler cette semaine de La colère d'un homme patient. Nous étions avec Anastasia, Pierre et Aurore et malheureusement un énorme souci technique fait que l'enregistrement a été irrémédiablement perdu. Nous ne perdons pas espoir de réenregistrer cette séquence pour le plaisir de vos oreilles. En attendant, eh bien, vous pouvez aller voir le film, La colère d'un homme patient. Et puis nous passons tout de suite à notre sérivore, donc avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonjour Rémi.
Ted, suit up.
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What?
Danger zone.
Say my name.
Eisenberg.
You're goddamn right.
Cool. Cool, cool, cool.
Boy, these pretzels are making me thirsty.
While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle.
Plata o plomo.
Democracy is so overrated.
Office.
Winter is coming.
Bonjour à tous mes chers sériphiles. Cette fois-ci, je m'adresse aux geeks car je vais parler d'une série dont il a été question par exemple dans The Big Bang Theory. Une série qui est célèbre dans l'univers des geeks, célèbre même à travers Castle avec quelques petits clins d'œil, avec d'autres séries qui y font référence, etc. Une série qui a été abrégée beaucoup trop tôt. Je parle bien sûr de Firefly. Alors Firefly est une série qui a été produite par la Fox. Oui, Fox, vous savez, Fox News, celle qui héberge Bill O'Reilly par exemple. Cette chaîne télé qui, mine de rien, ne sait pas faire de l'information, mais sait faire d'excellentes séries. Après, bien sûr, vous verrez tout à l'heure que cette chaîne est aussi une chaîne de teubés. Voilà, c'est dit, je l'affirme, Fox est une chaîne de teubés. Bref, revenons à Firefly. Firefly a été produit par Joss Whedon, connu notamment par exemple pour la création de Buffy contre les vampires. Mais c'est aussi le réalisateur des Avengers, ainsi que d'une version moderne de Much Ado About Nothing, la pièce de Shakespeare, une réadaptation que je trouve extrêmement bien réussite, avec comme acteur principal Nathan Fillion, dont nous reparlerons dans deux secondes, parce que c'est l'acteur principal de Firefly. Alors la particularité de Firefly, ce qui fait qu'elle est connue par tout le monde et qu'elle est unique en son genre, c'est que c'est un space western. Et oui, c'est un vrai space western, au sens de, on peut d'un côté se retrouver dans l'espace dans un vaisseau spatial, et quelques minutes plus tard, on se retrouve par terre à chevaucher des chevaux avec des chapeaux de cow-boy, des grands manteaux et des colts posés à la ceinture. Alors oui, le space western, c'est un genre assez particulier de la science-fiction. C'est une manière de reprendre les thèmes des westerns, c'est-à-dire les thèmes de la frontière avec les Indiens qui cette fois-ci sont transformés en Reapers, qui sont une espèce un peu bizarre d'hommes retournés à l'état sauvage qui n'ont qu'une envie, c'est manger les autres. Bref, c'est cet autre très violent dont on a toujours peur dans la série et la tension est vraiment bien faite lorsque par exemple le personnage principal et son vaisseau se retrouvent à faire semblant d'être déjà morts pour ne pas se faire arraisonner par un vaisseau Reaper qui passe dans le coin. Donc voilà, c'est un space western, je ne pourrais le dire suffisamment, c'est vraiment excellentissime et génial. Seul problème, ça ne dure qu'une seule saison avec 14 épisodes de 44 minutes. Vous me direz 14 épisodes, c'est déjà beaucoup pour une saison, surtout des épisodes qui durent 44 minutes, mais c'est quand même pas assez. Alors tout d'abord, parlons des acteurs. Il y en a pas mal, bien sûr, mais ceux à retenir, ce sont par exemple Nathan Fillion, qui joue maintenant dans Castle, qui est un acteur relativement célèbre et excellent dans ses rôles, qui a joué aussi dans Much Ado About Nothing, c'est donc un acteur proche de Joss Whedon, et il est excellent dans son rôle de capitaine qui a la grande gueule et qui sort des phrases qui résonnent parfaitement, comme vous pouvez l'entendre par exemple dans le générique de cette chronique. Ensuite, il y a aussi, par exemple, Gina Torres, qui est l'épouse de Laurence Fishburne et qui joue maintenant dans nulle autre série que Hannibal, ce qui n'est pas rien quand même, et après un passage dans la série Suits. Ensuite, on trouve d'autres acteurs. On retrouve par exemple Alan Tudyk, un habitué de l'univers télévisuel, mais aussi du cinéma, et j'en passe. Bref, tous les acteurs sont vraiment bons dans leur rôle. Ils les jouent sans grandes ambitions. Hein. Ce ne sont pas des acteurs à la Shakespeare qui vont vraiment aller dans la profondeur du détail des sentiments des personnages, parce que les personnages sont tous relativement stéréotypés, mais ce sont des stéréotypes qui marchent plutôt bien, avec une histoire derrière eux et des relations qui existent entre eux, qui apportent justement suffisamment de nouveautés, suffisamment de fraîcheur pour qu'on ne s'ennuie pas à faire « bah, c'est la même chose, bah, les acteurs jouent toujours pareil ». Donc dans ces personnages, on a Malcolm, le capitaine, qui est un ancien d'une espèce de guerre de sécession qui n'est que mentionné dans la série, qui a vu la victoire de l'État fédéré, mais le capitaine, il s'avère, a fait partie des confédérés, donc on a encore cet univers du western, cet univers de, on reprend l'histoire américaine avec non seulement l'idée de frontières et des indiens, mais aussi l'idée de division interne, est-ce qu'on a envie de rester vraiment libre à pouvoir naviguer partout où on veut, ou est-ce qu'on veut un État fédéré qui a un certain contrôle, un certain pouvoir. Surtout que cet État fédéré est bien sûr un État pas très gentil et qui mène des expériences top secrètes dans le dos des gens. On trouve comme autre personnage Zoé, qui est une amie de Malcolm depuis justement cette guerre civile et qui est devenue la seconde à bord du navire. On a aussi Wash, le pilote, qui est lui l'élément comique, qui est un excellent pilote, mais qui est surtout là pour divertir les gens et faire rire les spectateurs, avec notamment par exemple ces quelques dinosaures posés sur son tableau de contrôle. Alors un élément intéressant justement, c'est que Wash et Zoé sont mariés. Et ça, je trouve que c'est particulièrement pertinent, parce qu'on a l'habitude de voir justement ces séries avec les personnages stéréotypés, où on va voir naître peut-être justement une relation amoureuse entre les personnages, mais on sait pas trop, et finalement oui, ça se passe, et du coup on est tous là à faire « Oh, ils sont trop bien ensemble !» Bref, là, ce qui est bien, c'est que dès le début, on dit « Voilà, ils sont mariés et femmes », ce qui impose une forme de relation qu'on n'a pas l'habitude de voir. Dans ce genre de séries, dans les séries d'aventure, quand on se retrouve avec un équipage complet, on n'a pas l'habitude de voir des gens mariés, plutôt des tensions sexuelles qui émergent, parce que bien sûr, il ne faut surtout pas leur donner vie, parce que ça risquerait de foutre en l'air l'équilibre. Bref, là, c'est vraiment bien foutu. Dès le début, on dit, voilà, ils sont mariés, ce qui crée une dynamique différente et très intéressante. Ensuite vient le personnage de Inara, qui, elle, est une, voilà, pour dire rapidement, est une prostituée, sauf que dans cet univers créé par Joss Whedon, les prostituées sont, on va dire, des courtisanes à l'ancienne, et du coup, là, pour le coup, il y a une tension qui existe entre Malcolm et Inara, sauf que ce qui est bien, c'est que tout au long de la série, cette tension n'est jamais vraiment totalement assumé, et ça évite justement de tomber dans le « Ah, ça y est, enfin ils sont ensemble », parce qu'en même temps, on n'a pas envie qu'ils soient ensemble, ce qui est assez particulier à ce type de série. Ensuite, on a le personnage de Cobb, qui lui est le violent mercenaire, un peu débile, qui aime les gros flingues, voilà, un élément assez classique. Ensuite vient Kaylee, la jolie mécanicienne, encore une fois très classique. Et ensuite viennent les personnages qui arrivent au début, dans le premier épisode, qui ne font pas partie de l'équipage même. On a Dr. Simon Tam et River Tam. Ce sont donc des frères et sœurs qui fuient quelque chose parce qu'il semblerait que River Tam a quelques pouvoirs un peu particuliers, ce qui fait que justement ça rajoute l'arc principal de l'intrigue à cette série. En plus d'être des personnages relativement intéressants qui vont créer une certaine dynamique avec les autres personnages, par exemple River Tam avec ses pouvoirs inquiète Malcolm et créer une sorte de tension à l'intérieur même du navire, sachant que nous, quand on la regarde, on sait qu'elle est gentille, mais en même temps, on peut comprendre que le capitaine ait peur pour son navire, etc. Tandis que Simon Tam, lui, par contre, est le beau gosse qui se ramène et bien sûr qui fait chavirer Kaylee, la jeune mécanicienne qui tombe amoureux de lui. Ensuite vient le dernier personnage, Book, le prêtre. Book, vous voyez, c'est rigolo, il s'appelle comme un livre. Et donc c'est le prêtre qui va apporter à la fois la caution morale, sauf qu'une caution morale qui est, on va dire, comme dans les westerns. Le prêtre n'est pas là pour prêcher la bonne parole, le prêtre est là pour adapter la bonne parole aux réalités du monde sans foi ni loi. Alors maintenant, revenons sur pourquoi Fox est une bande de demeurés. Eh bien, c'est parce que la série a été abrégée beaucoup trop vite pour une unique raison. C'est que, enfin, c'est ce que tout le monde dit, bien sûr, mais il semblerait que c'est la réalité, pour l'unique raison que Fox a décidé de diffuser dans le désordre les premiers épisodes de la série. Ce qui fait que tous les commentaires de la série ont résonné dans le sens de « Oui, bah, on comprend pas trop la suite logique des épisodes, du coup on voit pas d'arc se former, du coup on n'accroche pas trop. » Et c'est pour ça que la série a dû être annulée à cause de mauvaises audiences, même si les quelques audiences qu'il y avait y étaient extrêmement attachées à l'univers de cette série. Donc qu'est-ce qui fait qu'on était vraiment attaché à l'univers de cette série ? Et bah tout d'abord, bien sûr, c'est l'humour. Un humour assez incisif, un humour de situation qui marche très bien, qui crée une dynamique entre les personnages qui jouent sur cette dynamique. Ensuite viennent justement ces personnages, qui sont des personnages qui ont tous leurs stéréotypes, on les reconnaît, ils sont campés par des acteurs qu'on aime bien. C'est pas des personnages qui nous hérissent le poil, ce sont des personnages où on se dit « Ah, j'aime bien les retrouver régulièrement pour connaître la suite de leurs aventures, parce qu'ils parlent bien, etc. » C'est des personnages qui sont bien sûr trop gentils, mais ça passe très bien, et justement, il faut maintenir ça. Parce que la série, bien qu'elle ait été abrégée bien trop rapidement, elle a été poursuivie avec un film, Serenity, que Joss Whedon a voulu réaliser justement pour fermer l'arc principal centré autour de River Tam. Et les personnages deviennent beaucoup trop sérieux, ça devient un vrai film, ça devient plus trop un space western, mais plus un véritable film de science-fiction qui donne à réfléchir, qui montre des méchants vraiment très méchants, du coup les gentils... On a l'habitude de les voir très gentils, mais maintenant on les voit confrontés à des très méchants, du coup on perd l'aspect comique, on perd l'aspect léger, et on se retrouve vraiment avec quelque chose de sombre, et c'est pour ça que je trouve qu'en fait Serenity a fait plus peur que vraiment rire, et donc c'est pas vraiment réussi. C'est un bon film de science-fiction, mais ça ne reprend pas l'esprit de Firefly qui a été vraiment très bien réalisé. Avec justement cet univers très bien constitué, avec cet état fédéral qui fait des choses très méchantes contre ces anciens confédérés qui sont convertis en espèces de pirates de l'espace, mais en même temps qui essayent de, non pas de respecter la loi, mais ont leur propre code, etc. Donc c'est vraiment cet univers qui est extrêmement bien constitué, avec surtout un très grand effort sur le réalisme lorsqu'ils sortent dans l'espace. Et je trouve que franchement, c'est tout à l'honneur de Joss Whedon, ce réalisme au niveau de l'oxygène, au niveau des vivres lorsqu'on est dans l'espace et tout, mais quand même, quand ils sont dans l'espace et qu'ils marchent dans le vaisseau, ils marchent par terre comme si le vaisseau était posé sur une planète. Et donc je trouve que franchement, la gravité dans le vaisseau m'a bloqué, même si bien sûr, évidemment, ce n'est qu'un détail, hein, je rigole bien sûr, même si c'est un détail qui est resté accroché dans ma mémoire. Du coup, je vous recommande, on ne peut plus vivement cette série, je lui accorde facilement 19 vaisseaux pour 20 planètes, ça c'est sûr, avec la mention, eh ben, si t'as pas entendu parler de Firefly, fonce, parce que c'est vraiment la meilleure série de science-fiction de tous les temps. Sur ce, bonne semaine.
Voilà, et on continue et on termine donc ce numéro avec quelques idées de sorties, comme d'habitude. Et des sorties cette semaine, il y en a beaucoup. Je commence avec Saint-Georges de Marco Martins. Nous suivons Georges, boxeur fauché sans emploi, qui voit sa femme le quitter pour repartir au Brésil avec leur fils. Le Portugal étant au bord de la faillite, les sociétés de recouvrement de dettes prospèrent, et pour sauver sa famille, l'homme décide alors d'offrir ses services à l'une d'entre elles, malgré leur méthode d'intimidation peu scrupuleuse. Seule la dignité éclaire ce film pur, sombre et beau, écrit Pierre Murat de Télérama. C'est elle que l'on sent s'infiltrer dans le cœur, voire l'âme, du héros, interprété par un comédien magnifique. C'est en salle, cette semaine, au cinéma Opéra dans le premier arrondissement. Je continue avec Cinéma Mon Amour du roumain Alexandru Belk. En 1989, il y avait plus de 400 cinémas en Roumanie. Aujourd'hui, il en reste moins de 30. C'est l'histoire d'un combat, ce film, celui de Victor, directeur de cinéma depuis plus de 40 ans et cinéphile militant, qui se bat au quotidien avec ses deux employés pour tenter de sauver sa salle, l'une des dernières de Roumanie, baignée entre nostalgie et rêve d'avenir. Le film est en salle au cinéma opéra également, ainsi qu'au Comédia. Et puis chez nos amis des cinémas Lumière, Tunnel de Kim Song-hoon, l'histoire d'un homme accidentellement enseveli sous un tunnel au volant de sa voiture. Pendant qu'une opération de sauvetage d'envergure nationale se met en place pour l'en sortir, Scrutée et commentée par les médias, les politiques et les citoyens, l'homme joue sa survie avec les maigres moyens à sa disposition, film que vous pourrez voir à la fourmi. Et puis, L'amant double de François Ozon, le réalisateur s'aventure dans le thriller avec cette histoire d'une jeune femme fragile tombant amoureuse de son psychothérapeute, lequel révélera peu à peu ses parts d'ombre et de mystère. Alors scénario étonnant pour du Ozon, le film était présenté à Cannes et sera aux Lumières Terreaux à partir de ce vendredi. Je mentionne aussi Psychonautas de Pedro Rivero et Alberto Vasquez, film d'animation qui suit la fugue de deux adolescents sur une île ravagée par un désastre écologique, le tout dans une ambiance sombre et grinçante qui n'est pas sans rappeler un certain Tim Burton. Ça sort aujourd'hui au Comédia. Du côté des ressorties maintenant. Commençons avec L'aimé d'Arnaud Desplechin, le documentaire méconnu que le réalisateur a consacré à sa famille et ses souvenirs à l'occasion d'un déménagement, et projeté lundi à la fourmi pour les amateurs de l'univers du cinéaste. Et puis pour ceux qui aiment les histoires de famille, le Périscope projette ce soir Polo Anarcao de Gérard Touillon, documentaire sur le père du réalisateur, ayant obtenu entre autres le Brutal d'Or au Festival Ciné Brut 2008. Voilà, si ça a réussi à éveiller votre curiosité, n'hésitez pas à jeter un œil aux extraits disponibles en ligne, lesquels promettent un film pour le moins étonnant, et que vous n'aurez sans doute aucune autre occasion de revoir dans votre vie. Pour ceux qui avaient manqué Mal de Pierre également, de Nicole Garcia, dans un tout autre genre, le film repasse mardi prochain, présenté par la réalisatrice à l'Institut Lumière. En attendant, vous pouvez vous mettre l'eau à la bouche en écoutant le numéro que nous consacrions à ce film splendide et farouche il y a quelques semaines. L'Institut projette également Les Raisins de la Colère ce week-end, alors je l'ai vu il y a quelques jours, ce film mérite amplement sa stature de chef-d'œuvre total et est sans conteste l'un des monuments du cinéma américain. Et puis l'Institut, c'est aussi ses magnifiques rétrospectives, à commencer par celle consacrée au cinéma soviétique, et cette semaine, Pas de guet dans le feu de Gleb Panfilov est à l'honneur. Léopard d'or en 69, le film suit une peintre dans la Première Guerre mondiale et est présenté mercredi, vendredi et dimanche. Et puis il y a la rétrospective Nicole Garcia avec, outre Mal de Pierre, Place Vendôme, magnifique polar où Garcia offre à Catherine Deneuve le rôle complexe d'une femme blessée aux abois mais impressionnante de détermination. Et puis finissons avec la grande Claudia Cardinale, dont deux des rôles les plus emblématiques sont projetés ce week-end, deux rôles que je n'aurais même pas besoin de vous décrire, que je ne peux que vous encourager bien sûr à voir ou à revoir. Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, et puis bien sûr, évidemment, Le Guépard de Luchino Visconti. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour ce 60e numéro cette semaine pour le cinéma, et malgré les problèmes techniques, c'était Aurore Sasportes, Pierre Lemoyle et Anastasia Kozireva pour les séries, comme d'habitude, Pierre Lemoyle et Rémi Cerda pour la coordination, le montage et les suggestions emphatiques. Votre émission de cinéma revient la semaine prochaine, d'ici là n'oubliez pas de réagir à nos émissions et de nous suivre sur notre page Facebook pour les plus connectés d'entre vous. Et bonne semaine à tous au cinéma dans Les Pas Inoubliables de Claudia Cardinale et Burt Lancaster.